Donc, bonjour.
Oui, comme il a dit, je suis. C'est un peu drôle parce que je suis de vous autres. Ça fait plus que quasiment 12 ans que j'assiste ici à cette assemblée. Mais comme Joël a mentionné, Boniface a mentionné, je suis en transit parce que avec une équipe de trois autres cyclistes, je fais la traverse du Canada en vélo. On a commencé le 1er juillet en Colombie-Britannique, Victoria. Et du volant, le 23 août, on va terminer à St. John's, Terre-Neuve. Puis, j'ai parlé avec Normand et gracieusement, il m'a permis de vous adresser ce matin, de vous parler justement un peu de notre voyage, comment Dieu se manifeste dans différentes dimensions de notre voyage. Et aussi, je vais parler de la compassion de Dieu. C'était lors d'une conférence il y a 2 ans que je me suis approché. C'était une conférence avec mon organisation missionnaire, Pouvoir de changer, que je me suis approché d'un de mes collègues pour lui poser une question personnelle. Et je voulais qu'il la garde confidentielle. Et comme il travaille avec la division de notre association Vie de famille, il travaille auprès des couples pour les encourager dans leur vie de couple, dans leur mariage. Il pensait, Robert veut partager, il y a des problèmes dans son mariage avec Anne-Marie. Mais je lui ai posé la question, j'ai appris, Mike, que tu as commencé à faire des triathlons. Puis en 2014, je vais célébrer 60 ans. Mon anniversaire de 60 ans. Puis, je voudrais faire la traverse du Canada en vélo. Aimerais-tu le faire avec moi? Puis, il était bouche bée. Puis, ce qui est arrivé, c'est que il ne m'a pas donné une réponse tout de suite, mais sa réponse immédiate était, je ne te donne pas une réponse tout de suite. Mais si on le fait, on doit le faire pour une cause. Et honnêtement parlant, je n'avais pas vraiment pensé à ça, mais tout de suite, ça ne m'a pas pris une seconde pour réaliser qu'il avait raison. Si on fait ça, si on fait ce grand projet, on doit le faire pour quelque chose d'autre que soi, quelque chose d'autre que nous-mêmes. Puis 3 mois plus tard, il est revenu, il a dit, il a accepté mon offre, puis il fallait chercher une cause. Et après avoir prié et cherché différentes possibilités, en fin de compte, on a décidé de soutenir une autre division de notre organisation qui s'appelle Global Aid Network, GAINS, pour comme acronyme. Puis, les autres, ils font le forage des puits d'eau en Afrique depuis maintenant 12 ans. Puis, justement, chaque puits qu'ils fournissent, pour voir l'eau salubre à 1000 personnes. C'est pas comme un puits résidentiel, c'est plus pour un village entier. Puis jusqu'à date, ils ont pourvu 850 puits en Afrique pour fournir quasiment l'eau salubre à 850 000 personnes. Du volant, non seulement avec ce que nous faisons, ils espèrent, ils prient qu'à la fin, arrivé à la fin de 2015, il aura fait le forêt de leur millième puits pour fournir l'eau à 1 million de personnes. Et cette eau salubre sauve non seulement les vies, mais change, transforme les villages. Et puis comme bientôt j'aurai 60 ans le 19 août. Puis Mike aura 60 ans le 24 août, le jour après la fin de notre trajet, notre projet. Puis on s'est dit, mais comme on est des vieux, on ne veut pas porter le bagage ou nos vêtements ou l'équipement de camping sur les vélos. Donc on a cherché une caravane pour nous accompagner au travers le Canada. Puis, merci au Seigneur encore, il y a un croyant qui travaille avec Fraserway Hervé à Abbotsford, en Colombie-Britannique, qui nous a prêté une caravane de 24 pieds pour toute pour toute la traverse. Donc, ça, c'était un grand don, mais ça a causé un autre problème. Il fallait les conducteurs. Puis quelqu'un a dit à Mike, est-ce que vous connaissez des enseignants? Et justement, il connaissait un couple, tous les deux enseignants. Puis il s'est approché des autres. Ça n'a pas pris plus que 3 secondes pour le mari, Richard, à dire oui, on va le faire. Parce que lui, il voulait faire le vélo. Mais sa femme, qui était pour conduire le véhicule, la caravane, elle avait plus de questions. Mais il y a quelques années, elle aussi, elle a eu une occasion de voyager à Ouganda. Puis elle a vu les femmes et les enfants qui se levaient tôt le matin pour aller dans les zones rurales, pour aller chercher l'eau. L'eau d'un étang ou d'un réseau qui n'était pas salubre. Puis elle a vu le besoin. Et dès qu'elle a entendu vraiment pourquoi on fait ce trajet, elle a dit oui. Puis elle travaille avec un autre enseignant qui a maintenant 63 ans. Il a célébré son 73e anniversaire le 18 juillet. Puis lui, il a entendu dire de notre projet. Il s'est dit, mais moi, j'ai plus que 60 ans. J'ai fait beaucoup de vélo. Lui, il a fait la traverse de Finlande il y a quelques années. Puis, en plus, lorsqu'il a appris de notre cause, lui aussi a eu l'occasion de visiter en Afrique et a vu le besoin. Même les situations dont il parlait, il a vu, c'était même dans une ville, il a vu là où les enfants et les femmes cherchaient l'eau. Puis un tout petit peu plus haut, il voyait des femmes qui lavaient les vêtements dans le même étang, dans le même réseau. Et même plus haut que ça, ils ont vu des conducteurs de camions qui lavaient leurs camions dans le même réseau. Et c'était en bas que les femmes et les enfants cherchaient l'eau. Et c'est cette eau qu'ils buvaient. L'Organisation mondiale de santé dit que tous les 21 secondes, un enfant meurt à cause des maladies transmises dans l'eau insalubre. Pendant notre trajet, vous avez entendu dire de cet avion qui a été fusillé au-dessus de l'Ukraine. Je ne sais pas combien de personnes sont mortes, je crois que c'était environ 300 personnes. Imagine un tel avion rempli d'enfants qui s'écrasait sur la terre tous les 4 heures. Ça, c'est le nombre d'enfants qui meurent à cause de cette manque d'eau. Les Nations Unies disent qu'il y a 900 millions de personnes sur notre planète qui n'ont pas accès à l'eau salubre. Donc, le besoin est vraiment urgent. Puis, comme la caravane n'acceptait donc, Timon a décidé de s'ajouter à notre équipe. Et comme la caravane ne s'héberge pas plus que 5 personnes, ils disent que ça peut s'héberger 8, mais tu sais qu'il faut mettre là par terre dans 2 places. En tout cas, ça aurait été vraiment difficile de dormir à 8 personnes dans la caravane. Donc, à 5 personnes, on a dit que notre équipe était complète. Puis, justement, évidemment, lorsque l'équipe était complète, il y avait beaucoup de préparations à faire pour le voyage. Il fallait monter un site web dans les 2 langues, commencer à préparer la publicité, travailler de concert avec Gain. Puis j'avais demandé aux équipiers, parce que moi je suis le cycliste le plus expérimenté, j'ai dit à tout le monde, et Richard et Mike n'ont pas fait vraiment beaucoup de vélo. En fin de compte, Richard et sa femme font plus l'escalade des montagnes. Ils faisaient rarement de vélo. Mais je leur ai exigé de faire 3000 kilomètres de vélo avant le 1er juillet. Et tout le monde, toutes les équipes, incluant moi, ont réussi à faire ces 3000 kilomètres. Donc, le 1er juillet, on a trempé nos roues de vélo dans l'océan Pacifique. Et comme je vous ai dit, du volant, proche à Victoria, puis du volant le 23 août, on va tremper nos roues dans l'océan Atlantique, à St. John's, Terre-Neuve. Puis maintenant, nous sommes ici dans l'Outaouais. On a fait 5000 kilomètres de voyage jusqu'à date. Le 17 juillet, après avoir complété 2500 kilomètres, nous roulons juste un petit peu à l'ouest de Portage-le-Prairie. Puis j'avais complété mon tour en avant. On faisait une formation aérodynamique. Puis je me suis mis en arrière et je roulais trop proche le cycliste devant moi. Et j'ai touché avec mon roue d'avant, son roue derrière, et j'ai perdu le contrôle. Et tout à coup, à 27 km à l'heure, j'ai tombé, paf, à terre. Et mon rêve de traverser le Canada en vélo s'est envolé. Depuis ce temps-là, je suis en phase de rétablissement et le fait que je peux être debout devant vous et même pour prêcher, d'abord, c'est la grâce de Dieu parce que, merci Seigneur, je n'ai pas cassé un os. Mais j'ai eu 9 points ici dans le coude et ils sont maintenant enlevés, mais vous voyez encore un peu de cicatrices et les cales. Puis j'ai une contusion là, au niveau de la hanche gauche et certaines déchirures dans les muscles et tendons ici dans la hanche gauche. Et je ne faisais plus le vélo avec l'équipe, sauf que juste dernièrement, j'ai vu deux physiothérapeutes, mais j'ai vu d'abord deux médecins. Différentes reprises, deux physiothérapeutes et le dernier physiothérapeute m'a conseillé, m'a dit de vraiment commencer à refaire le vélo, marcher parce que ce qu'il vous faut pour le bon rétablissement, c'est justement de bouger, de ne pas rester comme ni assis, ni au lit. Et je savais ça. Même ce matin, avant de venir à l'église, Gilles m'a dit hier, lorsqu'il est venu chez nous pour une petite visite, il m'a dit, non Robert, fais ton vélo après le culte, parce que si quelque chose arrive, tu ne peux pas prêcher. Gilles, je ne t'ai pas écouté. J'ai fait 11 kilomètres de vélo ce matin. Mais j'aimerais vous parler de comment Dieu a vraiment manifesté sa compassion au travers cet accident. Évidemment, tout de suite, l'équipe, les trois autres cyclistes sont arrêtés pour voir comment ils peuvent m'aider. Grâce au Seigneur, notre caravane était juste en arrière de nous par 5 minutes. Ils ont téléphoné, nous avons des cellulaires, ils ont téléphoné à Jackie, la femme qui conduit, la femme de Richard et Jackie sont mariés. Jackie est arrivée juste 5-6 minutes plus tard pour me donner le premier soin. Il y avait même une autre personne qui voyageait qui ont vu que j'étais par terre. Elle est allée jusqu'à la prochaine sortie pour tourner de nouveau, pour revenir juste pour voir si elle pouvait porter l'aide. Ça fait maintenant 34 jours de notre projet. Et il n'y avait qu'un seul jour où quelqu'un nous accompagnait, qui nous suivait ou suivait la caravane en voiture. C'était la mère de Jackie, Dawn, qui habite à Miami, au Manitoba, et Portage de Prairie, c'est au centre, en sud de Manitoba. Donc, elle nous accompagnait. Donc, le fait qu'elle était là, Jackie m'a amené à l'urgence et elle a accepté d'accompagner les autres cyclistes lorsqu'ils continuaient la route. Parce qu'on s'est dit avant, tout le monde s'est assis, on a eu une consultation, on s'est dit si quelqu'un est, s'il y a un accident ou quelque chose arrive, qu'un cycliste ne peut plus continuer, les autres vont continuer. Parce que le projet, la cause est plus important que la traverse du Canada en vélo. Donc, ils ont continué, puis la mère de Jackie a pu pourvoir à leur lunch et d'autres choses selon le temps que moi, elle m'a accompagné à l'urgence. Puis, deux jours plus tard, la douleur était si intense. Le premier médecin qui m'a vu m'a dit, il m'a fait bouger d'une certaine façon pour faire en sorte de vérifier que je n'avais pas cassé un os. Donc, mais il n'a pas pris des rayons X. Puis, donc, 2 jours plus tard, ça me faisait si mal que je pensais, oh non, il n'avait pas raison, j'avais cassé un os. Donc, j'ai demandé à la personne qui nous hébergeait cette soirée-là, il a accepté de me conduire à Kenora, en Ontario du Nord, pour voir un autre médecin. Puis, ce médecin, lui aussi, m'a fait bouger de certaines façons, puis il était quasiment certain que je n'avais pas fracturé un os, mais par pitié de moi et compassion, je dis, il a accepté de me faire passer par un rayon X. Et évidemment, et comme je vous ai dit, je n'ai pas cassé un os. Donc, je remercie le Seigneur pour cela. Puis, quelques jours plus tard, on était hébergés à une autre place. Puis ça c'est le gilet qu'on porte comme cycliste. Puis vous ne pouvez pas vraiment le voir, mais ici à l'épaule, il y avait une grande déchirure. J'avais gratiné l'épaule à différentes places. Ce qui est pire, c'est cette contusion. Mais vous ne pouvez pas le voir, mais elle faisait la lessive pour le kip. Elle a vu la déchirure qui était là. Puis personne lui a demandé de faire quoi que ce soit. Elle a mis une patch en forme de cœur parce qu'elle dit que vous êtes des hommes de cœur parce que vous faites ça pour d'autres personnes. Et même, elle est très bien équipée. Elle fait la pointure et plusieurs choses. Elle a une machine, je ne sais pas, une dessure, je ne sais pas comment le dire en français. Puis, elle a même mis les stitches en forme de vélo. Et j'étais vraiment ému parce que, elle a vu un petit besoin. Puis, elle a pris l'initiative, elle qui connaît le Seigneur, qui aime le Seigneur, juste pour me faire un petit geste d'amour, de compassion. Donc, le Seigneur a fait en sorte que il a utilisé différentes personnes pour manifester son amour et sa compassion. Pourquoi est-ce qu'il a enlevé le rêve? Ben, lui, il n'a pas vraiment enlevé le rêve. je ne blâme pas Dieu pour mon accident. Il n'a pas suspendu la loi de gravité lorsque j'ai commencé à tomber par terre. c'était ma faute, c'était pas la faute de l'autre cycliste. S'il y avait une faute de lui, c'était peut-être 0,01%, quelque chose comme ça. Moi, c'était 100% ma faute. Je suis certain, convaincu de ça. Mais je dois vous avouer honnêtement que j'étais le seul qui avait vraiment le rêve de traverser le Canada en vélo. Mike n'a jamais pensé à ça. Timon, ça se peut qu'il a fait comme un voyage, il a traversé la Finlande, il a fait un grand voyage du nord au sud en Colombie-Britannique, mais il n'a jamais pensé vraiment à faire la traverse du Canada. Puis Richard, qui faisait les escalades de montagne, n'a jamais du tout pensé à faire le vélo, même pour juste la traverse de Colombie-Britannique. Moi, j'étais le seul qui avait vraiment cette rêve, mais je crois que je le tenais trop fort. Trop fermement dans ma main. Je savais, même avant de partir, que je devais le tenir avec une main ouverte. Puis, je crois que le Seigneur a permis que mon rêve soit enlevé pour que je puisse vivre moins pour le vélo, pour accomplir ce rêve, et plus pour la cause, et plus pour la raison pour laquelle on le fait. Et de me faire grandir dans ma connaissance de sa compassion et aussi d'encore manifester cette compassion encore vers les autres. Parce que c'est au fond, moi je vais probablement jamais rencontrer, mais ça se peut, mais probablement jamais rencontrer les milliers de personnes qui seront aidées par ce projet de recevoir l'eau pure et aussi fait partenariat avec le Jesus Film Church Planting Strategy et parmi les 850 villes où ils ont un puits qui fonctionne, il y a maintenant un tiers qui ont une église implantée. Donc, il y aura des personnes qui vont recevoir l'eau physique à cause de notre projet. Il y aura des personnes qui vont recevoir l'eau spirituelle, notre Seigneur, le Saint-Esprit qui vit en nous pour vivre pour l'éternité. Et ça, c'est une manifestation de la compassion de Dieu. Puis lorsque, quelques jours après mon accident, je réfléchissais sur des personnes les personnages dans la Bible qui eux aussi n'ont pas réalisé un rêve. Puis la première personne qui m'est venue à l'esprit, c'est Moïse. Moïse, lui, au début, évidemment, de sa vie, ou même jusqu'à ce que le Seigneur lui a appelé, n'avait pas eu le rêve d'aller dans la terre promise. C'était Dieu qui lui a donné cette mission de faire sortir son peuple de l'esclavage en Égypte, puis de les amener jusqu'à la terre promise. Mais il y avait un moment donné dans sa vie où il n'a pas rendu gloire à Dieu. Un bref moment, mais tu sais, un seul péché était ce qui a fait la cause que Adam et Ève aient sorti du jardin d'Éden. Ça a pris juste un seul péché pour être séparé de Dieu, pour mériter la mort. Donc, ça prend juste un seul péché pour faire un changement dans nos vies. Et à cause du fait que Moïse était vraiment le représentant de Dieu devant le peuple d'Israël, il le tenait responsable pour ce petit moment où il manquait de lui donner gloire. Puis Dieu n'a pas permis à Moïse d'entrer dans la terre promise. Et moi, je dirais que de tenir quelque chose trop fermement à la main, un rêve, un projet, des plans, trop fermement, pour moi, c'était un péché. Et Dieu de l'avait enlevé. Donc, chacun de nous devons faire attention de ne pas tenir trop des choses de cette terre. Acheter une maison, acheter une nouvelle voiture, acheter une nouvelle télévision, chercher un meilleur job. Quoi que ce soit, parfois, nous les tenons trop fermement. Et Dieu doit enlever ça parce qu'on met quelque chose au-dessus de Dieu. Puis, mais il y avait un moment donné dans la vie de Moïse où il cherchait connaître la gloire de Dieu. Il voulait connaître vraiment davantage la gloire de Dieu. C'était le moment où il était sur le mont Sinaï. Dieu était en train de lui donner les 10 commandements. Le peuple d'Israël se sont abandonnés, ils se sont livrés à l'idolâtrie, ils ont fait faire le veau d'or. Puis Dieu a dit à Moïse, « Je vais détruire ce peuple, et je vais faire de toi une grande nation. » Puis Moïse a intercédé pour le peuple, pour que Dieu ne les tue pas, ne les détruise pas. Puis Dieu a accepté de ne pas détruire le peuple d'Israël. Puis, Dieu a dit, la deuxième chose, elle a dit, mais je ne vais pas accompagner le peuple d'Israël. Je ne peux plus parce que c'est un peuple obstiné. Puis, je ne veux plus parce que si je les accompagne, je vais les détruire. Mais Moïse a dit, non, tu dois nous accompagner. Je ne bougerai pas d'ici si tu ne nous accompagnes pas. Et Dieu a accepté aussi, il a dit oui à cette requête. Puis Moïse a osé poser une troisième requête. Je m'excuse. Une requête extraordinaire. Il a osé demander à Dieu, montre-moi ta gloire. Il voulait voir la gloire, Dieu dans toute sa gloire. Ce qui n'est pas vraiment permis à un être humain. Nous ne pouvons pas voir dans notre état de pécheur, de voir Dieu. Et Moïse était pécheur aussi. on peut pas voir Dieu dans toute sa gloire dans cet état. On sera mort immédiatement. Mais Dieu a accepté, il a dit oui, de lui démontrer un petit peu de sa gloire. Puis, c'est la deuxième fois dans ma vie que j'utilise l'ordinateur pour faire une présentation devant une église. L'autre fois, c'était il y a quelques semaines dans une autre assemblée. Normalement, j'imprime mes notes parce que j'ai peur que quelque chose ne va arriver à cet équipement. Lorsque je prêche, je serai perdu complètement. Mais lorsque Dieu a manifesté sa gloire, et je ne sais pas, j'avais demandé à Joël de peut-être afficher Exode 34. Est-ce que tu l'as mis sur une diapo, Exode 34, 6 à 7? Mais lorsque Dieu passe devant Moïse, il le cache dans une rocher, Moïse est permis juste de voir d'une certaine façon visiblement le dos de Dieu. Dieu s'est manifesté, parce que Dieu est esprit, il n'est pas physique. Il a permis de voir comment, d'une certaine façon, quelque chose physique, son dos. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qu'il a annoncé en ce moment. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner à Exode 34, versets 6 et 7. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Parce que je réalise que je commence à avoir soif. Quelqu'un le cherche. Merci, Denis. Donc, Exode 34, versets 6 et 7. Ça dit, le Seigneur, Dieu est en train de passer devant Moïse. Puis, il annonce ceci. Le Seigneur Dieu, compatissant, miséricordieux, lent à la colère et rempli d'amour et de vérité. C'est lui qui manifeste son amour de génération en génération. Merci. La première caractéristique, c'est lui qui manifeste son amour de génération en génération. La première caractéristique que Dieu mentionne après avoir mentionné son nom, le Seigneur Dieu, il a mentionné sa compassion. Sa compassion. Et moi, je vois une progression dans ces caractéristiques. L'une suit l'autre, progressivement. La compassion de Dieu, qui voit nos besoins, l'amène à nous manifester sa miséricorde. Rempli de compassion et de miséricorde, l'amène à être patient envers nous qui sommes pécheurs. Et pour manifester son amour et même jusqu'à nous pardonner. Donc, comme il dit, Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et rempli d'amour et de vérité, c'est lui qui manifeste son amour de génération en génération. Donc, nous devons apprendre de sa compassion. Et j'aimerais vous parler de quelques exemples de la compassion de Jésus, comment il a manifesté pendant sa vie terrestre, et nos responsabilités. C'est quoi notre responsabilité face à ça? Donc, en Marc, chapitre 6, verset 34, Jésus descendait de la barque. Il avait prêché dans un lieu. Ils ont fait la traverse de lac de Galilée par la barque avec des disciples. Puis maintenant, il y a une autre foule qui l'attend à l'autre côté. Et ça dit que quand Jésus descendit de la barque, Marc 6, 34, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de pitié, compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à enseigner longuement. Je sais que d'autres personnes ont parlé ou prêché par rapport à des brebis. Des brebis sont des animaux qui ne sont pas nécessairement très intelligents. Si vous parlez à un berger, et justement, lorsqu'on était à Vavenby, en Colombie-Britannique, il y avait un bergeron qui assistait à l'église là où on a eu l'occasion de partager. Puis en sortant de la ville, on a vu sa ferme, il y avait, je ne sais pas combien, peut-être une centaine de brebis, mais ils étaient ici et là, éparpillés un petit peu partout, mais il avait un chien bergeron, est-ce que c'est ça qu'on dit? Un chien berger? Puis, lorsque le chien nous a vus, ça commençait à japper, puis il commençait à tenter de ramasser et aider les mais on faisait peur un peu aux brebis et aux chiens, mais on était pour rien faire eux autres, mais ils ne savaient pas ça. Mais les brebis se perdent très facilement. Et Jésus nous compare à des brebis qui se perdent trop facilement. On s'égare. On a une tendance à errer ici et là. Et n'est-ce pas vrai? Nous nous détournons du chemin droit à maintes reprises pendant nos vies. Mais il est toujours là, comme notre berger, de nous guider et de nous faire retourner sur le chemin droit. Donc, en voyant notre besoin de direction, notre berger est motivé, ému de compassion, de nous diriger. Quasiment la même histoire, mais racontée à Matthieu 15, 32. Il a prêché à cette foule pendant 3 jours. Puis, Matthieu 15, 32. Après avoir enseigné la foule pendant 3 jours, Jésus appela ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule. » Et souvent en français, le mot « pitié », c'est le même mot pour « j'ai compassion ». Voilà déjà 3 jours qu'ils sont restés là avec moi. Ils n'ont rien mangé. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne de peur que les forces ne leur manquent sur le chemin de retour. Jésus voyait un besoin physique. C'était pas un besoin spirituel ici. Il voyait leur besoin physique. Il voyait qu'à cause du manque de nourriture, ils pouvaient manquer la force. Ah, puis juste une petite parenthèse, quelqu'un nous demande combien de calories par jour est-ce que vous consommez en faisant ce trajet-là? C'est entre 7 et 9 000 calories par jour que les cyclistes consomment en faisant ce trajet. Quelqu'un m'a vu aujourd'hui, je lui ai dit, vous avez perdu de poids. Et en fin de compte, même moi qui a fait juste 2500 kilomètres, j'ai perdu 4 ou 5 livres. Puis Jackie dit qu'on mange comme les ados, les garçons ados. Puis une autre femme qui nous a hébergés, elle a noté sur son page Facebook, « Je n'ai jamais vu les hommes si minces manger autant dans ma vie. » Donc, mais nous avons tous besoin de nourriture. Je ne sais pas si vous avez déjà jeûné. Moi, j'ai déjà fait des jeûnes de 3 jours. Et c'est vrai, après 3 jours, il nous manque la force. Et Jésus a vu ça. Il voulait leur donner à manger. Donc, en voyant, et c'est même, lorsque Jésus nous a enseigné de prier notre Père Céleste, il a dit, donne-nous notre pain quotidien. Puis, ça veut dire plus que juste notre pain physique, juste la nourriture dont nous avons besoin. Mais ça inclut notre nourriture, nos besoins physiques. C'est certain. Mais Jésus, qui s'identifie aussi comme le pain descendu du ciel, certainement voulait dire par cette même phrase qu'on donne aussi le pain spirituel, notre nourriture spirituelle quotidiennement. Nous avons besoin de ça. Et Jésus veut pourvoir notre besoin physique, nos besoins spirituels chaque jour. Et même s'ils ne sont pas nécessairement mentionnés, je suis certain que ça touche toutes les dimensions de notre vie. Si vous avez besoin des besoins sentimentaux, émotionnels, si vous avez besoin des besoins intellectuels, d'être stimulé intellectuellement, si vous avez des besoins sociaux, d'accompagnement. Dieu voit tout, il voit tous nos besoins, et Jésus, notre bon berger, veut pourvoir à ses besoins. En le psaume 72, versets 10 à 14, vous n'avez pas besoin nécessairement d'y tourner, vous pouvez noter. C'est une prophétie par rapport au Messie. Ça dit, « Car il délivrera le pauvre qui implora son secours, et l'affligé qui n'a point d'aide. Il y aura compassion des faibles et des pauvres. Il sauvera la vie des pauvres. Il les arrachera à la violence, à l'oppression. Ils seront précieux à ses yeux, car il délivrera le pauvre qui implorera son secours et l'affligé qui n'a point d'aide. » Moi, j'imagine des femmes en Afrique rurale, ils ont un enfant malade, ils sont en train de voir cet enfant mourir à cause des maladies, puis ils prient. Mike, mon coéquipier, dit que lorsqu'il faisait l'entraînement, un jour, il montait une colline contre le vent, puis il dit, ça c'est difficile. Puis il s'est dit, la deuxième pensée qu'il a eue, c'est, ça sera difficile de faire les trajets du Canada en vélo. Et oui, c'est difficile. Mais il a dit, la troisième pensée qui lui est venue dans l'esprit, il a dit, mais la chose la plus difficile aurait été de voir un de mes enfants mourir à cause d'une maladie transmise par l'eau insalubre. Et Dieu me permet, et nous permet, parce que comme Église, nous sommes en train de ramasser les fonds pour un puits. 1000 personnes peuvent avoir l'eau salubre, saine pour la vie, à cause de nous. Vous n'allez pas rencontrer, fort probablement. Mais vous faites quelque chose qui aide à manifester la compassion envers ces faibles et ces pauvres que vous ne connaissez pas. Bien, le Seigneur les voit et veut nous utiliser pour toucher leur vie. Mais il y a une troisième chose que Jésus voit qui lui motive. En Luc 7, versets 12 au 14, Luc 7, versets 12 au 14. Jésus arrivait à la porte d'une ville. Il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve. Il fut pris de pitié pour elle. Il lui dit, « Ne pleure pas. » Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. Puis Jésus dit, « Jeune homme, je t'ordonne, lève-toi. » La mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Ce n'était pas compassion pour la mère que Jésus a rendu la vie à ce jeune homme. Parce que dans la société juive de cette époque, ils n'avaient pas comme nous avons dans notre société à cause de notre gouvernement une aide sociale. C'était la famille immédiate qui prenait soin normalement des personnes. Mais elle était veuve, donc elle a perdu son mari et elle avait un fils unique. Et c'était normalement les hommes qui pourvoyaient aux besoins des femmes dans cette époque. Mais les femmes s'impliquaient évidemment dans le travail aussi. Aux fermes ou quoi que ce soit, mais c'était un peu, selon les normes de cette société, ils dépendaient des hommes dans leur vie, dans leur famille, pour prendre soin d'elles. Mais maintenant, elles n'avaient personne. Puis Jésus avait compassion d'elles. Il a rendu la vie à ce jeune homme. Et lorsqu'il a vu Lazare mort pendant 3 jours, Jésus pleurait. Le texte biblique ne dit pas pourquoi Jésus a pleuré. Mais moi, j'imagine que ce n'était pas à cause du fait que Lazare est mort, parce qu'il savait qu'il était pour lui redonner la vie. c'était probablement pas même par les larmes de Marie et Marthe qui ont vécu 3 jours sans leur frère. Moi, je pense que Jésus a pleuré parce que il a vu les ravages de la mort. Et la mort qui est la conséquence, la cause primordiale de la mort, ce sont nos péchés. Et je crois qu'il voyait le péché, la mort par conséquence, et même ce que lui devait faire pour régler ce problème. Donc, Jésus, le bon berger, qui a compassion de ses brebis, dit, je donne ma vie pour les brebis. Je donne ma vie pour les brebis. Un bon médecin ne traite pas juste les symptômes. Cette cicatrice que j'ai eue, ça saignait, mais s'il aurait juste tenté de mettre quelque chose pour arrêter le saignement, ça aurait été pas suffisant. Non, il a mis les points pour clôturer la plaie, pour que ça puisse se guérir. Donc, le médecin ne traite pas juste les symptômes. Le médecin tente à traiter la cause, le problème même. La mort, c'est un symptôme. Ça dit dans les Écritures que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que nous méritons pour nos péchés, c'est la mort. C'est une conséquence. C'est un symptôme, c'est pas la cause. La cause, c'est nos péchés. Et nous méritons tous la mort à cause de nos péchés. Et comme je vous ai dit, un seul péché est suffisant de nous éloigner de Dieu, de nous mériter la mort. Mais combien de péchés est-ce que nous commettons dans nos vies? Mais lorsque Jésus, notre berger, est mort pour nous, il a résolu le problème du péché. Il a accepté il a satisfait la justice de Dieu, a payé le salaire pour nous, pour que nous puissions être pardonnés et n'a pas besoin de payer le salaire d'être séparé de Dieu éternellement et de mourir éternellement. Donc, notre bon berger, ému de compassion pour nous, nous dirige, nous donne à manger, nous satisfait nos besoins quotidiens, mais il a donné sa vie pour satisfaire à nos besoins les plus profonds, être délivré ou livré de nos péchés. Ça, c'est la compassion de Jésus. Mais nous, que faisons-nous à la lumière de sa compassion? Que devons-nous faire? Puis il y a 2 histoires bibliques qui me parlent beaucoup de comment Dieu veut vraiment qu'on manifeste sa compassion l'un envers l'autre et aux gens qui nous entourent. Et la première histoire, c'est l'histoire de Jonas. J'aime beaucoup cette histoire parce que je suis un peu comme Jonas, je suis un peu têtu. Et je n'ai pas le temps de raconter combien de fois, certaines fois dans ma vie où Dieu me demandait à faire quelque chose et je voulais vraiment aller d'une certaine façon, un autre moyen, mais il devait me frapper par la tête d'une façon très gentille, très bonne. Mais en tout cas, je m'identifie un peu avec Jonas parce que lorsque Dieu lui a appelé de prêcher aux Ninevites, qui étaient les ennemis d'Israël, Jonas ne voulait pas le faire. Donc, il s'en allait dans l'autre direction. Il a pris une barque pour s'éloigner le plus que possible de Ninive. Mais on ne peut pas s'échapper de Dieu si facilement. Puis Dieu a envoyé une tempête. Les matelots dans la barque cherchaient auprès de leur Dieu qui était la cause de ce problème. Puis Jonas a avoué que c'était à cause du fait qu'il fuyait le Seigneur, qu'il y avait cette tempête, puis il a dit, « Jette-moi dans la mer, puis le problème sera réglé. » Ils ne voulaient pas faire ça tout de suite, mais en fin de compte, ils ont accepté, puis ils ont jeter Jonas dans la mer. Vous connaissez l'histoire. Puis, là, il ne pouvait pas s'échapper si facilement. Peut-être Jonas voulait juste mourir, mais il ne pouvait pas s'échapper si facilement de Dieu. Dieu a appointé un poisson de l'avaler, et du ventre du poisson, il a prié. Puis il a confessé il a commencé à louer le Seigneur et confesser ses péchés. Puis Dieu a ordonné le poisson de vomi, Jonas, maintenant proche en Ninive. Il n'a pas échappé. Donc Dieu lui envoie en Ninive. Et maintenant, après tous les problèmes qu'il a eus, il accepte de le faire. Puis il prêche. Et le message qu'il annonce, c'est un drôle de message dans un sens pour avoir un réveil. Il dit, dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. C'est tout son message. Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Il annonçait le jugement de Dieu. Il n'y avait aucune promesse d'une délivrance, aucune annonce d'une possibilité d'être épargné. Il dit, non. Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Mais les Ninivites se repentaient. Dieu les épargnait. Mais Jonas se fâche parce que lui, c'était les ennemis d'Israël. Il ne voulait pas qu'il soit épargné. Moi, lui, il voulait voir justement le jugement de Dieu et le s'assoyer. 40 jours, il voulait vraiment voir le feu de Dieu descendre du ciel pour détruire ce peuple-là. C'était ça son rêve. Puis, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et lorsque les Ninivites se repentaient, Dieu les a épargnés. Puis maintenant, Jonas est en colère. Je ne sais pas contre qui, peut-être contre Dieu, peut-être contre les Ninivites, parce qu'ils se sont repentis. C'était un des plus grands réveils de l'histoire. Même les réveils qu'on a eus les derniers siècles, les deux derniers siècles, n'ont pas été si grands, parce qu'ils... Environ 300 000 personnes se sont tournées vers le Seigneur. Puis, donc, Jonas est vraiment fâché. Puis, Dieu appointe ou fait grandir une plante pour lui donner l'ombre de la soleil. Puis, un jour plus tard, il envoie un ver pour ronger la plante pour que ça sèche. Puis, le soleil tombe sur la tête de Jonas. Et il se fâche de nouveau. Et il demande la mort. Puis Dieu lui dit quelque chose. Il dit, tu t'as pitoyé sur cette plante qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser et qui est sortie de terre en l'espace d'une nuit et a péri la suivante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive? Si le point de l'histoire de Jonas ou le livre de l'histoire de Jonas était la compassion de Dieu, ça aurait terminé au troisième chapitre lorsque Dieu les a épargnés et démontré sa compassion. Mais il y a un quatrième chapitre dans le livre de Jonas et ce chapitre conclut par le verset que je viens de citer. Parce que le point de ce livre, ce n'est pas la compassion de Dieu. Le point de ce livre, c'est que Dieu voulait que Jonas partageait sa compassion pour les perdus. Ça, c'est le point du livre de Jonas. Que nous manifestions la compassion de Dieu envers les perdus. L'Église, la seule raison pour laquelle vous êtes ici avec moi ce matin, que Dieu ne vous a pas enlevé pour aller au ciel, pour être parfait dans sa présence, il y a une seule raison que l'Église existe, en réalité, sur la terre. C'est pour faire connaître le Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas. Votre raison pour rester sur la terre et ne pas mourir, maintenant, le reste de votre vie, le reste de ma vie, c'est pour manifester la compassion de Dieu envers ceux qui sont perdus. Ça, c'est une chose. Il y a une deuxième histoire, et je termine bientôt. C'est l'histoire du bon samaritain. vous connaissez cette histoire très bien. Je ne raconterai pas en détail, mais un Juif voyageait de Jérusalem à Jéricho, c'est juste une marche de 20 kilomètres, une journée. Ah, on a rencontré un homme, une autre petite parenthèse, on a rencontré un homme lorsqu'on était en Colombie, non, en Alberta, qui marche au travers le Canada, et justement, il marche 20 ou 25 kilomètres par jour. Je ne vais pas raconter plus de son histoire en ce moment-ci, mais c'est juste une journée d'un jour. Puis les brigands l'attaquaient, puis ils l'ont laissé pour mourir. Puis deux responsables religieux des Juifs ont passé, ils l'ont vu, mais ils ne se sont pas arrêtés pour lui soigner. Mais un Samaritain, et Jésus a pris cette personne par exprès comme exemple, parce que les Samaritains n'étaient pas des amis des Juifs et les Juifs n'étaient pas des amis des Samaritains. Je ne sais pas si c'était si pire comme maintenant entre les Israélites et les Palestiniens. Je ne sais pas si c'était si grave que ça, mais ils n'étaient pas amis. Mais cet Samaritain, méprisé des Juifs, s'arrêtait pour soigner cet homme. Mais cet homme, lui, était un étranger. Il ne le connaissait pas. Il l'a soigné, il l'a mis sur son âne, il l'a amené à une auberge, une hôtellerie ou quelque chose comme ça. Il a payé pour que le propriétaire prenne soin de cet homme et il a continué son voyage. Puis il a dit, à mon retour, s'il y a quelque chose qui manque, je vais te payer. Fort probablement, il n'a jamais vu, il n'était pour jamais revoir cet homme qu'il a soigné. Ça lui restait un étranger. Puis Dieu nous permet, par notre projet, de donner de l'eau et transformer les villages et donner l'eau physique et l'eau spirituelle à des milliers de personnes. Les personnes qui pour nous sont des étrangers, on ne les rencontrera pas. Mais comme le bon Samaritain, lorsque le monsieur qui a posé la question, Jésus lui dit, c'est lui qui a démontré être prochain envers cet homme. Puis il a dit, c'est lui qui lui a démontré et manifesté l'amour. Puis Jésus lui a dit, comment est-ce qu'il a dit? Va et agis de même. Va et agis de même. Donc, ça tombe à nous. Nous ne sommes pas mieux que le Samaritain. Nous ne sommes pas pires que le Samaritain. Jésus dit à chacun de nous, va et agis de même. Lorsque nous voyons des besoins des gens autour de nous, par amour, par compassion, Jésus nous dit, agis de même, prends soin, aidez. Puis, il y avait le jour de notre départ de Victoria, ou disons le soir avant, on est allé à Victoria pour partir. Mike connaissait un couple qui travaille avec Vie de famille, avec la même division. Puis leur petit enfant était là pour écouter notre histoire. Et on a partagé comme un puits coûte 8 500 $. C'est pourquoi l'objectif est 8 500 $. Un puits coûte 8, qui veut dire que si chaque, et on peut dire ça par les moyens, 1000 personnes sont servies par un puits. Donc pour 8 $50, on peut donner l'eau pour la vie à une personne. C'est si simple que ça, au travers de ce programme. Et si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez venir après et me poser des questions. Mais 8 $50. Puis les deux petits-enfants de ce couple, un fils de 8 ans et une fille de 6 ans, sont partis brièvement. Ils sont revenus. Puis ils ont trouvé chacun 8 $50 de leur tirelire pour nous donner, pour pouvoir l'eau pour la vie pour un enfant. Personne leur a demandé de faire ça. Les parents, leurs parents n'ont pas demandé de faire ça. Mais c'est une famille qui assiste à l'Église et ses enfants sont enseignés dans l'amour de Jésus. Et Jésus a motivé ses petits-enfants de donner. Et je sais que plusieurs parmi vous ont déjà donné. Puis, on a ramassé un petit peu vers la moitié. Je ne sais pas si ça s'est vraiment rendu à date. Parce qu'il y avait certains dons en ligne. Je crois qu'on est déjà sur au moitié. Mais je vous encourage. Et je sais que notre Église a plusieurs projets. Il faut donner votre don, votre dîme à l'Église pour l'avancement de son royaume ici à Gatineau. Et il y a le projet de Burundi. Il y a plusieurs projets. Mais je vous prie, sois motivé par la compassion de Dieu, de donner généreusement à toutes ces choses-là. Et Dieu voulant, Dieu remercie, il va manifester sa compassion au travers vous, à ces personnes que vous n'allez jamais rencontrer, sauf au ciel. Sauf au ciel. Je vais terminer par un mot de prière. Père éternel, si nous manifestons la compassion, c'est parce que toi, tu nous as manifesté ta compassion au début. Si nous manifestons l'amour, c'est toi qui nous d'abord ont manifesté ton amour en nous délivrant de nos péchés et en pourvoyant à tous nos besoins. Merci pour cette compassion, Seigneur. Verse cette compassion dans nos cœurs pour qu'on puisse démontrer cette compassion aux gens perdus et aux gens qui sont dans le besoin pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.